Parashat Bereshit, suite. Chers amis, Hachem, Alechem, Tiahiou, Leorechem, Tovim, Shanim, Neaimim. Le début de la paracha, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le mot Reshit fait allusion à la Chochma. Reshit Chochma Yirat Hachem. Mais le début, l'extrémité du savoir, de la connaissance et la crainte de Dieu. Et ce que la Chochma a placé comme couronne sur sa tête, la modestie en a fait le talon de sa chaussure. C'est-à-dire que Aikev Anava Yirat Hashem. C'est que Yireshit Chochma Yirat Hashem. C'est la modestie qui va amener à la réalisation de la Chochma. La Chochma, le savoir, ne se réalise que dans celui qui est modeste. Et c'est l'essentiel du terme Bereshit. Le début de la création, c'est la modestie du Créateur. Le Créateur s'est donné la peine de descendre, de limiter sa force, son pouvoir, sa volonté, pour faire une place à l'ensemble de la création. Et il descend des plus hauts, des cimes, des sommets de la spiritualité pour s'occuper des créatures viles que nous sommes. C'est le sens de Bereshit. Le Ramban, dans son introduction à Bereshit, commence son commentaire en disant « C'est avec tremblement, effroi, sueur, crainte et peur que je m'apprête à commenter la Torah d'Hachem. » Ce grand maître, en ces quelques, avec ces quelques mots, a défini la démarche du savant qui veut comprendre la Torah de Dieu. C'est le sens profond du mot Bereshit. La Chochma, c'est le sens profond du savoir. C'est la modestie. Et comme le dit Rabbi Moshe Cordobero dans Tomer Deborah, que la sphira, la notion de la mida de Chochma, du savoir, traduit justement cette modestie totale qui ne regarde, elle ne regarde cette mida-là que vers le bas et n'ose même pas lever les yeux plus haut. Parce que justement, elle ne regarde pas d'où elle vient, de son créateur. C'est pour ça que la première lettre commence par un bet qui est ouvert vers la gauche. On ne peut pas voir, il y a une muraille, il y a un mur qui empêche de voir ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a avant, c'est le Aleph, c'est l'insondable. C'est le sens de la modestie. Et à partir de là, le bête puise tout du Aleph pour le répandre vers le bas. C'est le sens profond de la modestie. C'est celui qui va s'occuper des autres. Celui qui connaît, qui détient un peu de savoir et qui va en faire profiter le plus grand nombre. Non pas pour se placer, mais pour se faire une place, pour se faire un nom, mais pour diffuser le savoir. C'est le sens du savoir, c'est ça le savoir. Comme nos maîtres l'ont dit. Et c'est au Chacham, à l'omètre Nicolas Adam. Quel est celui qui est savant? C'est celui qui est prêt à apprendre de tout le monde. Peu importe l'individu qui... Là où il y a quelque chose à apprendre, je suis prêt à apprendre. Du plus petit comme du plus grand. C'est pour ça que le bête se dirige vers la gauche. Avec cette idée-là, si nous méditons correctement cette idée qui est mentionnée dans la première lettre de la Torah, qui va traduire la modestie, la Yirat Hashem et la Chochma, alors nous pouvons commencer à commenter, comme dit le Ramban, la Torah d'Hashem. Alors ici, il se pose une véritable question. qui est que le premier jour, comme il est dit, Vayere, Vayi Boker, Yom Ehad, et que la notion de temps, de mesure du temps va apparaître, cette notion-là n'apparaît qu'au cinquième verset. Précédemment, il y a cinq versets où il est dit « Bereshit bara Elohim, l'Éternel créa au début la terre, le ciel et la terre, et tout ce qu'il contient. La terre était tohu bohu, voire rachi, c'est-à-dire que tous les éléments étaient mélangés, n'étaient pas définis. Rocher al peneteum, l'obscurité, l'Esprit divin planait sur les eaux. Et au passage 3, il est dit, voyons Mère Elohim, yéior, que l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a ici, entre parenthèses, le fait qu'il n'y ait pas marqué Vehaya or, qui serait un présent, mais c'est un passé. Vayhi, c'est un passé. C'est-à-dire qu'il avait un seder en l'âme qui a précédé, c'est le Aleph qui a précédé. Dans le Aleph, tout est contenu. Après, il est dit, passage 4, il est dit, Vayar Elohim et Taor Kitov, l'Éternel a vu que la lumière était bonne, et il a séparé la lumière de l'obscurité. Vayikra Elohim la Orion, Vela Rocher Kara Laila. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a appelé le jour, la lumière jour, et l'obscurité nuit. Et là, apparaît la notion de temps, vayi erev, vayi boker, yom ehad. Et ce fut un soir, et ce fut un matin, et ce fut le jour 1. Vayi erev, la notion de erev, sous-entend la notion de mélange de jour et de nuit, d'obscurité et de lumière. C'est la progression dans la nuit qui tombe de manière progressive. À partir du coucher du soleil, alors la lumière diminue et il y a un peu d'obscurité et plus on avance et l'obscurité se fait puissante, se développe. Vayi boker, et ce fut un matin, c'est-à-dire que la nuit est passée et le jour s'est levé. Yom Ehad, jour 1, et pas marqué premier jour, marqué jour 1. Là c'est le jour étalon. Mais ici, il faut souligner qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil, la lune n'ont pas encore agi, bien que Rashi, au troisième plus loin, dira que tout a été créé le premier jour. Mais ils ne sont pas placés. Donc comment il y a ce Erev ? Comment il y a ce Boker ? Pourquoi d'ailleurs est-il dit Boker ? Pourquoi n'est-il pas dit journée ? Parce que le jour est composé de toute la nuit et de tout le jour, pas seulement du matin. Pourquoi est-il dit Boker, voyez Boker? Ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner qu'il y a un temps, il y a quatre versets et demi qui précèdent le premier soir. Voyez Erev, voyez Boker. Tout ce qui a précédé, les quatre versets et demi qui ont précédé, ne sont pas inclus dans ce premier jour-là. Donc la mesure de temps va commencer au verset 5, vers la fin. Vayere, vayiboker, yom ehad. Tout ce qui était avant n'est pas inclus là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à le mesurer. On ne sait pas la notion. Il n'y a pas de mesure à ce niveau-là. Donc c'est ce que peut-être disent les scientifiques, que le monde a 15 milliards d'années. C'est une notion que nous n'arrivons même pas à mesurer, à comprendre et à maîtriser. La Torah dit que le monde a 5776 ans, 77 ans. Ça commence à partir de quand ? À partir, non pas de Bereshit, mais à partir de Vayere, Vayiboker. C'est le premier point. Deuxième point qui m'intéresse, ici, c'est de souligner que la création qui est décrite dans ce texte ne concerne pas du tout la création dans le monde dans lequel nous vivons. Ici, il est décrit un monde totalement spirituel. Les animaux parlent dans... Le Nahash parle à l'homme. Donc il ne s'agit pas d'un animal quelconque. L'homme a une dimension extraordinaire. Les Midrashim disent, il parle à Dieu. Les anges l'ont pris pour le Créateur. Il est dans le Gan Eden. Il est à un niveau totalement spirituel. Son corps est fluide. Pour comprendre ça, je vais donner l'exemple suivant. La Gemara pose la question, l'échelle de Yaakov, quelle dimension avait-elle en largeur? Parce qu'il est dit qu'il y avait des anges qui montaient, des anges qui descendaient. Alors si les anges montent et descendent et se bousculent, il faut que l'échelle soit suffisamment large pour permettre à un ange de monter et à un ange de descendre. Alors la Gemara rapporte un verset et dit, le corps de l'ange est de quelle dimension? Alors la Gemara dit, « Vegviato kiam tarchish ». C'est-à-dire, on peut comprendre que le corps d'un ange est large comme la mer Méditerranée. 3000 km, 4000 km. Donc, l'échelle faisait le double de cela. Maintenant, le corps de l'ange est un corps fluide. Alors, imaginons de l'air, un corps d'air. L'air est une matière, mais si on compresse le corps, et on le met 4000 km d'air dans une bouteille de 1m80. On le concentre, alors la matière devient palpable. L'air comprimé, quand on ouvre une bouteille d'air comprimé, on sent l'air. On sent la matière. Donc le corps de l'Adam Arishon était encore plus fluide et plus pur et plus limpide que le corps des anges. Un niveau beaucoup plus haut. La création elle-même était d'un niveau totalement spirituel. Il est dit d'ailleurs qu'après la faute, les talons de Adam Arishon faisaient honte au soleil. Ils étaient plus lumineux que le soleil. Les talons de Adam après la faute. Pour nous dire que qu'est-ce que cela devait être avant la faute. Il est dit aussi que les anges ont pris Adam Arishon pour le Créateur et lui ont voulu lui faire des corbanotes. Et des louanges. Et Mkoubali m'explique que les mondes de la création sont de quatre niveaux. Il y a le monde de l'émanation, Olam Ha'atzilut, qui est un monde totalement spirituel, qui va donner naissance au monde de la création, Olam HaBriya. Puis en dessous, il y a le monde de la Yetzira, le monde de la transformation. Et en bas, il y a le monde de l'action, Olam HaAsiya, qui est le monde de la matérialité. Ces quatre mondes composent, tous les éléments de la création sont composés de quatre niveaux. L'homme lui-même est composé de ces quatre niveaux-là. L'homme possède le système nerveux, qui est au niveau du cerveau, le système respiratoire, le système digestif, et en bas, le système reproducteur. Le monde est toujours construit sur quatre étages. Au moment de la création, il est dit que Adam Arishon transcendait les mondes. C'est-à-dire, il traversait tous les mondes du monde. Il avait ses pieds posés sur le monde de la matérialité, mais son esprit atteignait les plus hautes sphères, le monde de l'émanation. De même, l'arbre de la connaissance. Il est dit dans les Chazal qu'une fois, il est dit que c'était du blé, parce que le blé ressemble à un arbre. Une autre fois, il est dit que c'était de la vigne. Une fois, il est dit que c'était un étrog. Et une autre fois, il est dit que c'était une figue. En fait, il n'y a pas de discussion entre eux. Chacun parle d'un niveau spirituel par rapport au monde qui lui correspond. L'arbre transcendant tous les mondes. Alors dans un monde, cet arbre-là qui passe, qui traverse les mondes, dans un monde, il est du Rita, voilà, c'est la Chochma. Une fois, c'est le monde de la Halakha pratique, c'est le monde de la figue. Le secret de la Torah, c'est le vin. Et l'action de la mitzvah, c'est le etrog. Tout dépend à quel niveau on se place. Quand l'homme va fauter, mais non, au moment de la création, tous ces mondes-là sont imbriqués les uns aux autres. Il n'y a pas de place pour la matérialité, même la matérialité est spirituelle, comme nous l'avons expliqué. Les animaux parlent, l'homme lui-même a un corps fluide totalement spirituel, etc. Donc, la qualité de la création correspond à ce que nos maîtres disent de cet homme-là, exceptionnel, qui comprend son créateur. Il comprend et il arrive à nommer chacune des créatures qui se présentent devant lui. C'est lui qui va nommer les créatures selon leur essence même, l'essence de leur création. Donc le monde est comme ça. Au moment de la faute, Adam Harishon, par sa faute, va, par la Avera, il va détacher les mondes. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, alors là, ma piroud. La séparation de la spiritualité de la matière. La matérialité va prendre forme. La matérialité va se détacher de la spiritualité et elle va devenir épaisse. Le corps de Adam va devenir un corps épais, vulgaire. La matière va s'amplifier, va prendre de l'effet, va prendre des proportions que nous connaissons aujourd'hui. Les animaux vont perdre la qualité de la parole et vont devenir des animaux tels que nous les connaissons. La matière, les arbres, etc., toute la nature va se transformer et va être ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est la conséquence de la faute. Alors que la Torah, quand elle décrit la création du monde, elle décrit un monde totalement spirituel où la matière n'est pas celle que nous connaissons. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme va mourir. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi ? Parce que la matière va se détacher et va prendre l'ampleur qu'elle a en se détachant de la spiritualité. L'âme va devenir, après la faute, l'homme, le corps de l'homme va devenir dominant par rapport à son âme. Précédemment, comme dit le Ramban, Adam Harishon n'avait pas de propre volonté de mal en lui, donc sa volonté était toujours de faire le bien. Le monde scientifique qui découvre et ses découvertes ne parle que du monde que Adam a causé, le monde matériel que Adam a causé après la faute. Il ne parle pas du monde que Akadosh Baruch Hu a créé. Et ça permet de répondre à énormément de questions. Parce que après la faute, les clipotes, la Touma s'est développée et a fabriqué des éléments matériels qui vont entraîner les hommes vers des croyances qui sont erronées. Même si c'est a priori une réalité. Mais cette réalité-là n'est pas la réalité, est une réalité apparente, mais n'est pas la réalité profonde de ce que la Torah décrit. Le Ramban dit, explique ce que la Torah développe et raconte de la création du monde. Comme si on racontait, on essayait de prendre... Si on prenait un aveugle de naissance et on lui expliquait qu'est-ce qu'un arbre, il n'a jamais ouvert les yeux. Il n'a jamais vu un arbre. Et on lui explique, voilà, on va t'expliquer qu'est-ce que c'est un arbre. Donc on va lui lire un livre de biologie, de botanique. On va lui expliquer un arbre, les racines, les minéraux, la sève, le tronc, etc. On va tout lui expliquer. Et on va même lui faire toucher. On va lui donner les détails, des détails, des détails. Cet homme-là, qui n'a jamais vu un arbre, se fait une idée de cet arbre-là dans sa tête. Si nous avions la possibilité de photographier l'image qu'il se fait de l'arbre Eh bien, cette image-là serait de très, 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 très loin ressemblante à un vrai arbre. Eh bien, c'est l'image que nous avons, nous, de la création du monde. Nous sommes ces aveugles-là à qui on raconte qu'est-ce que la création du monde. Et nous croyons que ce que la Torah décrit est le monde dans lequel nous évoluons, alors qu'il est totalement différent. Et ça pour nous permettre de répondre aux interrogations qui peuvent se poser à nous. Et avec une grande modestie que nous devons aborder la première paracha qui ouvre la porte, qui nous ouvre la porte de la Emouna, qui nous ouvre la porte de la confiance en Dieu, de la connaissance de Dieu, avec une très grande modestie. Si nous avons cette modestie-là, si nous savons poser les vraies questions, poser les questions, pas pour poser des questions, pour trouver des réponses. Car le principe est le suivant, on ne peut donner de réponse que là où il y a une question. Et la question dans l'étude est l'ouverture. La question est une ouverture. On ouvre une fenêtre vers un horizon nouveau où la lumière va jaillir. Si on n'a pas de questions, ça veut dire que le texte ne nous intéresse pas. Si on s'intéresse, on veut comprendre, on est obligé de poser la question. Nous posons des questions, nous essayons de trouver des réponses avec l'aide de Dieu dans tout, surtout avec une très grande modestie. Et plus quelqu'un a du savoir, et plus il doit se comporter avec une très grande modestie, parce que la vérité est diverse, il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une démarche. La Torah comporte de nombreuses facettes, et elle est infinie. Et Yiratson, simplement qu'il faut prier Hachem qui nous illumine de ses lumières pour nous guider vers le droit chemin, que nous ne disions pas des choses qui seraient contre sa volonté, et que nous soyons véritablement ses serviteurs. Baruch Adonai Eliyahu, Olam Amen V'Amen.